Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Mireille Delmas-Marty a été élue en 2007 à l'Académie des sciences morales et politiques. Professeure honoraire au Collège de France, elle a occupé la chaire intitulée « Études juridiques, comparatives et internationalisation du droit » jusqu'à la fin de l'année 2011. Aujourd'hui, elle est avec nous en tant que présidente d'un observatoire sur le pluralisme des cultures et des religions, l'observatoire Pharos, qui vient de lancer son site internet en France. Le lancement officiel en France de ce site date du 3 octobre 2012. Mireille Delmas-Marty, bonjour.
Bonjour.
Qui est à l'initiative d'abord de ce projet de création d'un observatoire ?
C'est un projet déjà ancien qui avait connu un premier lancement au Sénat en début 2012.
Ça, c'est le lancement très officiel.
Et là, c'est la deuxième étape, c'est le lancement du site. Alors, l'idée était de réfléchir sur l'intolérance qui semble, de façon un peu paradoxale, augmenter à mesure que la société se mondialise. Comme s'il y avait un espèce d'effet en retour de crispation identitaire, par crainte peut-être de voir les spécificités des cultures ou des religions s'effriter, s'affaiblir, voire disparaître. Et tout récemment encore, on a vu à quels excès et à quelles violences pouvait conduire la diffusion d'un film très médiocre et d'origine incertaine, mais diffusion par Internet. Immédiatement, des réactions d'intolérance se sont produites. Donc il y a maintenant une sorte d'urgence, c'est pourquoi il était important de ne pas tarder dans la mise en place du site Internet. L'idée de départ, c'était donc de réunir des personnes d'horizons très différents. Il y a des religieux, il y a des laïcs, il y a des diplomates, des juristes, des philosophes, des sociologues, pour au fond mener une action citoyenne, je dirais. C'est un observatoire qui est fait par des citoyens, au service des citoyens. Le but n'est pas d'avoir une action de dénonciation, nous n'avons pas l'idée de dénoncer tel ou tel fait, encore moins de juger telle ou telle situation, mais de faire connaître, de donner les éléments d'information nécessaires, car la violence vient souvent de l'ignorance, qui conduit à la peur conduisant à la violence. Donc il y a une sorte d'enchaînement inéluctable apparemment, et c'est contre cet inéluctable que nous voulons contribuer à lutter.
Pourquoi l'avoir intitulé l'Observatoire Pharos, pluralisme des cultures et des religions, et non pas l'Observatoire contre l'intolérance religieuse ou l'intolérance...
Parce que l'intolérance n'est pas seulement religieuse, elle existe aussi en matière de culture. Et pour nous, le mot très important, c'est pluralisme. Parce que, au fond, il y a une sorte de tension qui est très clairement reflétée dans les grands textes juridiques, d'ailleurs.
Qui sont rappelés dans le site.
Qui sont rappelés dans le site. Il y a une sorte de tension entre, d'un côté, cette déclaration fameuse de 1948, déclaration universelle des droits de l'homme, donc une vocation des droits de l'homme à l'universalisme. Or, les droits de l'homme comprennent la liberté de pensée, d'opinion, de religion, ainsi que la liberté d'expression, ce qui peut créer un conflit dans certains cas. Mais alors, nous avons donc ce texte qui postule un universalisme sans le définir davantage, sinon par l'énumération d'un certain nombre de droits et de libertés. Et puis, plus tardivement, et à une date qui n'est pas neutre, puisqu'il s'agissait de novembre 2001, peu après les fameux attentats du 11 septembre 2001, à cette date de novembre 2001, l'Assemblée des États membres de l'UNESCO adoptait une déclaration qui est par la suite devenue une convention sur la diversité des cultures. Et c'est une déclaration très forte parce qu'elle proclame la diversité des cultures patrimoine commun de l'humanité. Et elle ajoute que le pluralisme est la réponse politique à la diversité des cultures. Donc le pluralisme, il s'enracine dans ces textes. En même temps, il y a une tension inévitable entre universalisme et pluralisme. Les rédacteurs de la Déclaration puis de la Convention de l'UNESCO ont bien vu le problème parce qu'ils ont introduit un dispositif selon lequel nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l'homme garantis par le droit international ou pour en limiter la portée. Donc, on est au pied du mur, il faut concilier. Concilier, ce qui n'est pas évident, le pluralisme et l'universalisme. L'un est le multiple, d'une certaine manière.
Alors qu'on est dans un contexte où les tendances civiles vont vers un repli identitaire.
On est dans un contexte où on a tendance à tenir un discours plus simple. C'est ou l'un ou l'autre. C'est ou l'universalisme ou un pluralisme qui risque à ce moment-là de devenir ce que j'appelle un pluralisme de juxtaposition. C'est-à-dire qu'on a des cultures différentes, elles sont juxtaposées les unes aux autres, les unes par rapport aux autres, les unes à côté des autres.
Avec, pardon, la menace d'un repli de chacune de ces cultures sur elle-même.
Avec la menace d'un repli, mais aussi avec la menace d'un choc frontal. Donc, comment faire pour maintenir le principe des droits universels tout en admettant un certain pluralisme? Là, il y a des réponses tout en finesse et je dirais tout en nuance à trouver. Parce que le discours simple, il oppose frontalement l'un à l'autre. Et on l'a vu à propos des débats, mais depuis quelques années déjà, sur la question du délit de blasphème qui existe dans certains pays et pas dans d'autres. Même en Europe, la question s'est posée, même au sein du Conseil de l'Europe. Alors, est-ce que le blasphème doit être systématiquement exclu du code pénal pour protéger la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a conflit entre l'universalisme de la liberté d'expression et la diversité des cultures, les unes admettant le blasphème, les autres pas? C'est une question difficile qui a été soumise à plusieurs reprises à la Cour européenne des droits de l'homme. Les premières fois, d'ailleurs, c'était à propos de l'Autriche et puis ensuite du Royaume-Uni. Puis il y a une troisième affaire quelques années plus tard, en 2005, concernant la Turquie. Dans les premiers cas, c'était les religions chrétiennes. Dans le dernier cas, c'était la religion musulmane. Mais dans ces trois affaires, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas condamné l'État pour avoir incriminé et sanctionné le délit de blasphème. Parce qu'elle a estimé, et c'est la réponse à la question comment concilier l'un et le multiple, elle a estimé que les États avait une marge nationale d'appréciation par rapport à la liberté d'expression. Autrement dit, elle a rappelé, ce qui est déjà visible si on lit la Convention des droits de l'homme, que la liberté d'expression n'est pas un principe absolu. Elle a rappelé que c'est un principe essentiel en démocratie. Elle a rappelé que ce principe vaut même pour les idées qui choquent, qui heurtent ou qui inquiètent un État ou une partie de la population. Mais elle a rappelé que ce principe n'était pas absolu parce que la Convention prévoit la possibilité de restrictions à la liberté d'expression si elles sont nécessaires à la protection, en fait, de l'ordre public ou de la morale ou du respect des droits d'autrui.
Cette restriction peut venir d'un État, d'un gouvernement.
Un État, oui, exactement. État peut restreindre la liberté d'expression. C'est ce qu'il fait quand il incrimine le blasphème. Il peut restreindre la liberté d'expression pour protéger les droits d'autrui, alors au respect de leurs convictions religieuses. Mais alors, ça peut choquer. Tel que je présente la question, je pense que ça peut choquer les auditeurs. En réalité, elle n'a admis le blasphème dans ses affaires que parce que la sanction était très légère. Un franc de dommages intérêts dans un cas, un peu plus lourde dans le cas du Royaume-Uni ou de l'Autriche où il y avait eu saisie d'un film qui était jugé offensant pour la religion catholique, mais rien à voir avec les sanctions dont on nous parle parfois dans certains pays, qui sont des châtiments corporels comme des peines de fouet, qui sont des emprisonnements de longue durée, voire la peine de mort. Donc, elle admet une certaine marge d'appréciation des États, ce qui préserve le pluralisme, qui préserve la diversité des cultures, mais elle pose une sorte de seuil à ne pas franchir. Si la peine avait été plus lourde, ces trois pays auraient sans doute été condamnés.
Revenons à l'Observatoire Pharos, qui présente une structure, on pourrait dire, souple, en étant en réseau et en présentant un réseau professionnel, actif et citoyen, vous nous avez dit.
Oui, il y a l'idée d'agrégation.
Il y a cette idée d'agrégation. Alors là, vous collez au pluralisme, on va dire, dans l'organisation même de l'Observatoire. C'est une structure collective, de réseau.
Oui, mais l'originalité de l'Observatoire, c'est d'avoir voulu créer d'emblée comme première action et action centrale et principale un site internet qui comporte une sorte d'état des lieux. Alors, pour un certain nombre d'États, avec l'ambition
de couvrir tous les États,
le plus d'États possible, je dirais, par prudence. Mais c'est pas seulement un état des lieux statique sur les aspects historiques, politiques,
géographiques,
juridiques. Sur le site, il y aura ce que nous appelons la veille Pharos, c'est-à-dire des informations interactives et évolutives. La veille Pharos, ça permettra de faire remonter l'information à partir du réseau qui sera sur place. Donc, il y a l'idée d'un travail, en anglais on dirait work in progress, un travail évolutif, un travail interactif. Ça, c'est très important pour nous. Il y a une dimension internationale sur laquelle je voudrais attirer l'attention. On a parlé de la diversité des membres du conseil d'administration, des membres de l'observatoire proprement dit, qui viennent d'horizons très différents. Mais nous sommes en train de constituer un conseil d'orientation avec un certain nombre d'observateurs étrangers. Donc nous sommes très attachés à l'idée de couvrir vraiment la diversité. Pas seulement une partie de la diversité, mais la très grande diversité.
À quelle personnalité pensez-vous, par exemple, titre d'exemple?
Pour la réunion du lancement, plusieurs personnes sont intervenues, parmi lesquelles le président Bejaoui, Mohamed Bejaoui, qui est un juriste algérien très connu. Il a été membre pendant 20 ans de la Cour internationale de justice. Il a été ministre des Affaires étrangères de son pays. Et c'est en même temps un très grand juriste de droit international. Nous envisageons aussi de faire entrer des représentants, alors dans le conseil d'administration, de religions qui ne sont pas représentées pour le moment, comme le bouddhisme ou l'hindouisme. Il y a déjà des représentants des grandes religions monothéistes et nous souhaitons élargir. Alors, on arrive d'ailleurs à la frontière religion-culture. Nous souhaitons aussi des représentants des grandes cultures.
Ceux que vous venez de dénommer comme les représentants des grandes cultures, ce sont des écrivains, des artistes, des hommes politiques,
est intervenu aussi à l'occasion du lancement, le philosophe Régis Debray.
Régis Debray, depuis longtemps, à ce cheval de bataille de la défense de la laïcité.
Tout à fait. Donc, c'est pour ça que nous insistons sur le fait qu'il s'agit d'un observatoire des cultures et des religions. Le pluralisme n'est pas enfermé dans la question religieuse. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, l'éclairage est mis très fortement sur la question religieuse. Mais derrière, il y a ce problème permanent des cultures qui est au moins aussi important. Nous n'allons pas d'emblée tout aborder. Et pour ce qui concerne les pays qui vont petit à petit apparaître sur le site internet, dans un premier temps, il y a une douzaine de pays qui représentent en gros le pourtour méditerranéen, et puis quelques pays autres, d'Asie notamment, et d'Amérique latine également.
Sur Cuba, vous avez commencé.
Mais je souhaite que la France soit le plus tôt possible aussi sur le site, parce que il serait quand même étrange qu'on lance en France un site sans donner aucune information sur la situation française, qui est complexe.
Alors, comment participe-t-on à la veille Pharos?
Écoutez, on se connecte sur Internet, on visite le site et on suit le chemin qui est indiqué.
On peut vous contacter.
On peut participer à être membre de l'association, membre de l'Observatoire. Nous envisageons par la suite une fondation. Pour le moment, c'est une association. On peut devenir membre. On peut proposer de participer soit à l'élaboration, soit à la relecture. Le gros problème d'un instrument comme ce site internet, c'est la fiabilité des informations.
En fait, c'est un système de mise en ligne de fiches sur des pays.
Nous ne mettons pas d'emblée les fiches, nous les faisons relire par un certain nombre de spécialistes, et je dirais de spécialistes de différentes disciplines. Du point de vue juridique, par exemple, il est clair que ces questions sont particulièrement complexes. Je crois vous l'avoir montré par un exemple pourtant limité à l'Europe, a fortiori à l'échelle mondiale. Et donc, il y a un travail de vérification, non seulement des sources juridiques, mais des pratiques qui sont quelquefois très éloignées des sources théoriques. qui demandent des compétences qui ne sont pas forcément toutes représentées au sein de l'Observatoire. Donc nous avons des partenariats qui sont en train de se préparer avec des équipes de chercheurs, des équipes d'universitaires pour ce travail de vérification. Nous avons également un contact étroit avec les diplomates. Le directeur de Pharos, qui est en même temps l'un de ceux qui ont été à l'origine de la création de l'Observatoire, est le grand diplomate ambassadeur Pierre Morel. Et à travers lui, nous avons des liens étroits avec les diplomates du ministère des Affaires étrangères et extérieures. Et par conséquent, il y a un travail de vérification qui n'est pas seulement fait par les juristes, qui est fait aussi par les diplomates, qui est fait aussi par des équipes de sociologues et d'anthropologues. Donc c'est vrai que c'est une structure en réseau.
Ne craignez-vous pas que l'on pense ou que l'on dise que l'Observatoire Pharos soit la voix de la France ?
Si on dit ça, ce sera un peu un échec. On voudrait que ce soit un site, comme nous l'avons dit, fait pour les citoyens, mais pas seulement pour les citoyens français, pour les citoyens du monde. Que ce soit un moyen, un instrument pour l'action civique. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette notion d'action civique ou d'acteur civique ? Parce que moi, je constate, en travaillant sur plus largement depuis des années sur l'internationalisation du droit, que ceux qui font bouger les choses, ce sont les plus faibles en apparence. Ce sont pas les États qui, en général, défendent d'abord leurs intérêts nationaux. Ce sont souvent les organisations internationales, mais elles sont contestées parfois, elles ont des moyens insuffisants, disent-elles. Donc finalement, ce sont les acteurs civiques, les citoyens. Ils réussissent, par exemple, ils ont réussi à faire créer la Cour pénale internationale. Ce sont pas les États. Par exemple, les citoyens ont réussi à obtenir l'adoption du protocole de Kyoto sur les changements climatiques. Ce sont pas les États. Donc l'idée, c'est que les plus faibles en apparence sont ceux auxquels il faut donner des instruments. Et bien sûr, pour nous, ce sont les citoyens du monde.
Et comment pouvez-vous alors garantir son indépendance intellectuelle ou l'indépendance intellectuelle des sources mises en ligne ?
C'est extrêmement difficile, mais nous sommes conscients de la difficulté. Nous sommes conscients du risque de ne jamais être un observateur parfaitement neutre. Donc, ce que nous souhaitons, c'est introduire le plus possible sur le site la notion de débat contradictoire. S'il y a des désaccords sur l'interprétation historique ou juridique, nous souhaitons les rendre visibles et pas forcément les trancher, donner les points de vue qui s'affrontent.
Donc, si je vous ai bien compris, un lieu de débat possible, en réseau ?
Oui, y compris de controverses.
Y compris de controverses, mais pas un point de vue ou une position, un observatoire qui aurait des avis.
Il ne jugera pas et il ne décernera pas les médailles, mais il essayera d'informer de façon aussi neutre, donc contradictoire, que possible. Alors, cela dit, nous sommes très conscients du fait que c'est un projet qui peut paraître ambitieux ou même, je dirais carrément, démesuré. Nous en sommes conscients, mais nous savons aussi que ne rien faire, c'est pire. Ne rien faire, c'est laisser l'intolérance progresser, s'installer, se durcir. Donc, avec nos faibles moyens, nous essayons de mobiliser les énergies.
Et comment l'Observatoire est-il financé ou comment vit-il ?
Il y a des financements privés et publics, à peu près moitié privés, moitié publics. Et c'est une de nos tâches, enfin une des tâches des administrateurs, et du secrétaire général, que de chercher à renforcer ces financements, car vous avez raison, c'est une des clés. C'est pas la seule clé, parce qu'il y a des participations bénévoles nombreuses, mais c'est une des clés. Ne serait-ce que parce que nous avons, c'est un point que j'ajoute, que je n'ai pas mentionné jusque-là, nous avons l'ambition d'un site multilingue.
Pour l'instant, il est en anglais et
en français. Anglais et arabe. Donc ça suppose déjà un travail de traduction et de relecture des traductions qui est important et c'est donc un budget également important. Mais là aussi, c'est un pari.
Vous parlez de la langue arabe, il y a un axe méditerranéen auquel vous voudriez donner poids ou
pas
visibilité ?
Pas exclusivement.
On aurait pu choisir le chinois ?
On aurait pu choisir le chinois et nous avons d'ailleurs dans le conseil d'administration un spécialiste des questions chinoises et des religions, philosophies chinoises. Et je parlais tout à l'heure d'introduire le bouddhisme dans le champ des observations, des investigations. Mais tout cela ne va pas se faire en un jour. C'est un travail qui commence seulement et nous sommes très conscients des difficultés et très résolus en même temps.
Est-ce que vous estimez qu'en France, il y a une particularité particulière de la culture française à ne pas accepter ou à être plus intolérante que d'autres pays d'Europe par rapport au pluralisme des cultures et des religions? Juste d'emblée, on a envie de dire non, mais...
Mais justement, ça, c'est ce que nous n'allons pas faire. Nous n'allons pas classer les pays, nous n'allons pas décerner des bons points et des mauvais points, nous ne ferons pas un classement des pays. Mais en revanche, en France, qui est très fort, et d'ailleurs le président de la République qui nous a envoyé une lettre de soutien l'a rappelé dans sa lettre, c'est le principe de laïcité. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'interdire certains excès. Il y a quelques années, la France avait condamné pour diffamation d'un groupe à raison de sa religion, l'auteur d'un article qui contenait des allégations très critiques sur le comportement de l'Église catholique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu cette condamnation, donc pas pour blasphème bien sûr, mais pour diffamation d'un groupe, ce qu'on appelle diffamation collective. Et ce qui est paradoxal, c'est que du coup la France a été condamnée, elle, pour violation de la liberté d'expression. À la différence des pays que je citais tout à l'heure. Alors pourquoi avons-nous été condamnés dans cette affaire? Parce que la Cour, malgré la marge nationale d'appréciation, a introduit un nouveau critère, enfin un critère qui était seulement implicite dans les affaires précédentes, c'est de dire la différence avec les blasphémateurs en Autriche, au Royaume-Uni ou en Turquie, qui agissaient au fond de façon un peu gratuite, par provocation, presque par plaisanterie. Là, il y avait une diffamation, certes, mais elle pouvait contribuer au débat public. Il y a un débat des historiens sur le rôle exact de l'Église catholique pendant la guerre. Donc, ça n'était pas un acte gratuit. Et c'est intéressant de voir que c'est à propos de la France que le problème a été évoqué et résolu de manière qui paraît raisonnable, sage.
Vous pensez que la laïcité en France, enfin cette notion va être... parce qu'elle est souvent mal comprise, justement, dans d'autres pays, va être plus visible sur ce site?
Oui, on va forcément faire apparaître le principe de laïcité dans l'état des lieux pour la France. Mais en même temps, il y a des questions qui se posent, que nous avons envie d'explorer de façon plus concrète et qui se posent aussi bien en France qu'ailleurs. C'est par exemple la question de la formation des cadres religieux. C'est une question auxquelles les gouvernements sont assez attentifs. Et il y a un travail en cours sur ce problème au sein du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Donc, nous allons certainement aborder cette question parmi les débats, puisque je vous disais, au fond, nous voulons être initiateurs de débats. Parmi les débats que nous allons lancer, à commencer par la France, mais dans les autres pays aussi, nous poserons par exemple cette question. Comment aussi mener l'enseignement? Comment faire que l'enseignement soit interreligieux?
Ouais. Alors là, justement, en France, on tombe sur un os.
À la fois laïque et interreligieux.
Est-ce possible?
C'est la quadrature du cercle, mais en même temps, dans ces domaines, si on veut donner une réponse simple et des solutions simples, on sait qu'on va droit à l'échec. Alors la complexité, c'est moins évident, mais je crois qu'au bout, c'est plus réaliste.
Votre espoir secret, Mireille Delmas-Marty, c'est de faire émerger ces forces imaginantes du droit dont vous êtes...
Oui, la dimension juridique est importante, mais je ne pense pas que ce soit la seule. Je me suis engagée là, dans cette aventure, car c'en est une, à la fois comme juriste, parce que j'ai toujours préconisé ce que j'appelle le pluralisme ordonné, c'est-à-dire justement pas un pluralisme de juxtaposition, mais un pluralisme qui harmonise, qui recherche l'harmonie. Mais je me suis engagée aussi comme citoyenne avec le sentiment que le droit ne suffisait pas et qu'il fallait une action plus large, une action plus ouverte, précisément une action civique.
Ce bel outil d'Internet, est-ce que vous imaginez que si débat il y a, il puisse vous échapper?
Oui, c'est un risque. C'est un risque, je ne peux pas l'éliminer d'emblée, mais nous en sommes conscients. Donc nous serons particulièrement vigilants. De toute façon, tout l'ensemble est un pari.
Un pari sur l'avenir?
Nous le prenons parce que nous avons le sentiment que ne rien faire, c'est laisser l'intolérance progresser. Et ça, ça me paraît inacceptable.
Est-ce qu'à vos yeux, l'intolérance progresse en ce moment ?
Il y a une équipe de chercheurs américains qui a récemment remis un rapport sur ce thème de l'intolérance religieuse, alors pas culturelle, mais religieuse, qui semble montrer, à travers des indicateurs qu'il faudrait vérifier, une tendance à progresser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il me semble que c'est un des effets paradoxaux de la mondialisation. La mondialisation inquiète et du coup, elle provoque des crispations. Peut-être qu'il y a une question de vitesse. La mondialisation va plus vite que la connaissance réciproque des cultures et des religions. Donc là aussi, ça échappe.
Voilà, et ça fait partie des paradoxes sur lesquels vous mettez le doigt et sur lesquels vous attirez notre attention, en fait.
Exactement, les défis et les contradictions nées de la mondialisation.
Merci, Mireille Delmas-Marty.
Merci à vous.